Oh yeah, vous êtes à l'écoute de Buzz Radio et nous sommes en compagnie d'Axel Hirsou.
Et juste auparavant, on écoutait Ness avec son morceau Fantasy.
Ouais, super bon morceau.
Tu connais Ness, toi?
Légèrement. Non, c'est juste ma coach vocale depuis plus de 10 ans maintenant.
Alors, où est-ce qu'elle t'a accompagnée en France?
Alors, on s'est connus sur un concours de chant dans le nord de la France où moi je me présentais en 2002. Mais elle veut pas que je dise les dates parce que sinon elle va pas avoir 22 ans.
Non, mais elle a 22 ans.
Elle a 22 ans, donc voilà. Depuis très longtemps. Mais donc, on s'est connus là. Elle était membre du jury et puis on s'est revus sur les castings de la Starac où elle était dans le jury aussi. Et à partir de là, voilà, on a commencé à sympathiser, elle a commencé à s'occuper de moi. Et j'y dis toujours, Ness, c'est la voix derrière ma voix. Et c'est ce qui fait que, c'est ce qui fait que j'ai une technique maintenant et tout ce qui va avec et que je ne me fais pas mal quand je fais des concerts. Et voilà, donc elle est toujours là. Et
alors vraiment, donc c'est... Je veux dire, c'est quelque chose qu'un chanteur a besoin d'avoir.
Ah, évidemment,
une coach derrière.
Il y a besoin parce que c'est comme un grand sportif, il faut vraiment de l'entraînement. Tu peux pas être chanteur si tu n'as pas au moins un minimum de bagage derrière. Quoi.
Avoir ton professeur de chant, c'est une chose. Avoir un coach, c'est autre chose.
Mais moi, j'ai pas de professeur de chant. J'ai juste une coach.
Oh, mais toi, t'as le talent.
Mais non, mais c'est même pas ça. C'est que Ness, au-delà du prof de chant, elle a les techniques pour être coach. Donc, elle est les deux. En d'autres termes, un coach vocal et un prof de chant, c'est les deux. Et elle sert la vis.
C'est vrai qu'elle sert la vis. Hein.
mais voilà, donc c'est important parce que quand on fait de longues choses et autres, et moi je me rappelle quand j'étais à l'Eurovision il y a 2 ans, je faisais des séances de Skype avec elle pour avoir des conseils sur place. Donc voilà, elle est toujours là et elle est toujours là actuellement, et j'y suis tous les 15 jours pendant 2 heures intensives à faire du coaching vocal.
C'est géant, c'est génial parce que quand tu l'écoutes, tu dis oh, ce mec il en a pas besoin. Hein,
ah, donc... mais si, mais tout le monde en a besoin.
D'accord, la voix ça vient d'où? Ça vient
oh bah écoute, de loin.
Du cœur, du corps.
La voix ça vient, je sais pas. Moi je sais même pas te dire d'où vient ma voix. Moi je chante depuis toujours. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis tout petit.
Et... Familial, la famille aussi,
mais
il y avait des chanteurs.
Pas spécialement.
Musicien.
Il y avait... Non plus, pas spécialement. Moi, j'ai été attiré par la musique parce que mes parents étaient de grands auditeurs de musique, de disques vinyles et autres. Et donc voilà. Et j'ai baigné là-dedans. Et ma maman chantonnait à la maison et chante très juste. Et voilà. Et finalement, moi, je me
suis
mis
à
ça. Ça aide. Moi, je me suis mis à chanter, mais j'ai chanté sur le tard. Moi, ma première scène, c'était en 2000. Donc j'avais déjà 18 ans. Donc voilà.
Timidité?
Non, juste que
pas d'opportunité,
et puis les parents qui disaient fais tes études avant et on verra après.
Ouais,
et donc c'est ce que j'ai fait. Et avant tout ça, je faisais du théâtre, donc j'étais déjà bien occupé. Jusque 18 ans, j'ai fait du théâtre. Et après, du jour au lendemain, je me suis dit mais je chantais dans ma chambre. Et on se rendait compte qu'il y avait quelque chose de juste et de déjà un peu bizarre, puisque je chantais toutes les chansons de Céline Dion comme elle à l'époque, avec ma voix de fossé. J'ai mué depuis. Donc voilà, c'est vraiment pas quelque chose qui était dans ma famille, mais c'est quelque chose qu'on ne m'a pas interdit de faire, à la seule condition que je fasse mes études, et c'est ce que j'ai fait. Et après, ils m'ont laissé faire, et ils me laissent encore faire fatalement parce que je ne vis plus chez eux. Mais ils sont surtout très fiers de ce que je fais, et je les remercie pour tout ça, parce que c'est un gros avantage que d'avoir des parents et une famille qui vous soutiennent dans ce que vous
merci
faites.
Merci papa, merci maman.
Tout à fait.
On va écouter Dimi, je pense qu'il avait préparé quelque chose sur Axel.
Quelques petits trucs, hein. Donc en 2001, tu commences à te présenter à des concours de chant.
Oui.
On vient d'en parler, tu rencontres Ness à ce moment-là. Oui. À l'âge de 23 ans, tu te présentes donc à la 5e saison de la Star Academy en France.
Tout à fait.
Et tu manques de peu d'être sélectionné.
Ils m'ont laissé sur le paillasson, comme je dis à chaque fois.
Non mais tu es...
En fait, je finis dans les 25 derniers candidats qui pouvaient prétendre y entrer.
Ouais.
Et je pense qu'il y en a 19 qui y sont entrés. Et avec le recul, avec le recul et l'âge que j'ai maintenant, au moins, j'ai pas eu cette étiquette Starac. Et ça m'a servi d'expérience. Et ça m'a surtout apporté beaucoup de choses. Donc,
c'est une question de caractère aussi, parce qu'on a vu plein de jeunes qui ont fait la Starac. Mm-hmm. Et qui ont réussi à briser cette image.
Ah, tout à fait,
tout
oui.
À fait. Donc,
tout à fait, bien sûr.
Peut-être
maintenant...
que Jennifer, par exemple, en France, est encore cataloguée Starac. que c'est la seule, quoi. Parce que les autres, Quentin Mosimane, tout à fait sorti de cette image-là.
Jennifer aussi, Nolwenn aussi.
Ils ont tous cassé cette image. Moi, ce qui ne m'aurait pas, je pense, qui m'aurait plus dérangé, c'était ce côté télé-réalité. Alors, c'est un peu bête quand on fait le casting de ce genre d'émission, mais voilà, avec le recul, moi j'avais 23 ans.
Moi, je t'aurais bien vu là. Il aurait souffert à la gym. On aurait rigolé.
Pas vrai. Excel. Mais aucun regret en tout cas.
15 pompages. T'en fais combien tous les matins?
Oh, 3. Et encore, faut que je... un pour descendre, un pour me relever, c'est fini.
Alors en 2007, tu chantes Vive au Perley avec Hélène Segarra devant 1500 spectateurs.
Et c'était ici à Charleroi.
Au
Palais des Beaux-Arts.
Ouais. Ah, parce que je voulais te poser justement
la
question.
C'était au Palais des Beaux-Arts de Charleroi, donc c'était vraiment ici. C'était dans le cadre d'un casting avec RTL, avec Belle RTL. Mm-hmm. Et en fait, elle avait décidé de faire chanter des gens de là où elle passait en tournée.
Mm-hmm. Belle expérience.
Ah oui, très très chouette.
Personnage sympathique.
Très sympathique, très accessible.
Elle embrasse bien.
Ça, je ne sais pas. Mais moi ça reste finalement ma première expérience et c'est la première personne qui finalement m'a mis sur scène de manière professionnelle. Mm-hmm. Et sans le savoir. Parce que voilà, c'était un gros moment de voyez, franchement très très chouette. À refaire avec grand plaisir.
Bah on lui téléphone tout de suite.
Voilà.
Hélène, si tu
n'as rien à faire, je suis là.
Il y a Axel qui est là, il t'attend.
Mais ce sera plus devant 1500 personnes, ce sera devant 15 000 personnes. Alors parallèlement, tu te produis en amateur, avec un groupe amateur, dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris.
Oui, où je chantais le temps des cathédrales, la longueur de soirée, pendant 5 ans. En fait, on avait fait cette troupe au profit d'associations caritatives, donc on a joué pendant 5 ans, mais pas pendant 5 ans de manière permanente.
Tous les jours.
Oui, non, c'était pas non plus le truc. Et c'était le plaisir d'être sur scène en troupe.
Ça te met en confiance pour la suite.
Ça me met en conscience aussi, en confiance. Et c'était une bonne école pour la suite.
Tu as encore des rapports avec cette association caritative?
Très peu. Avec la troupe, non. Avec les associations pour lesquelles on a joué, ça arrive encore. Ouais. Parce que j'en ai recroisé. Au niveau de la troupe, non plus vraiment. Okay. On a chacun pris nos chemins.
Alors, le public te découvre vraiment ici en Belgique, en tout cas à la deuxième saison de The Voice Belgique, diffusée sur la RTBF donc en 2013. Tu interprètes tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Tu es sélectionné par Quentin Mosimane, dont on vient de parler, de Natacha Saint-Pierre. Tu choisis de rejoindre Natacha. Elle embrasse bien.
Écoute, elle sent très bon et elle embrasse bien. Oui, mais je ne sais pas. Oui, enfin, en tout cas, j'ai eu droit à un chouette bisou. Oui.
Ils ont de la chance. Hein.
Ah ben, tu parles.
Et donc, malheureusement, tu es éliminé au duel.
Oui, mais malheureusement et.
Enfin, malheureusement.
De toute façon, il en faut toujours.
Toute expérience est bonne à prendre. Voilà. Je veux dire que tu te fasses éliminer
ou je me fasse éliminer sur le premier live, moi c'était pareil. Mais j'ai vécu une chouette expérience et puis ça m'a permis de m'affranchir encore un peu plus et de faire ce qui est arrivé par la suite. Donc,
moi je propose de redécouvrir évidemment et d'écouter un ancien morceau d'Axel, celui. Olumain.
Ouais.
Au l'humain, ça fait quoi? Ça fait maintenant
un an.
Voilà. Donc un an, tu nous parleras de ce morceau et puis évidemment, tu es venu pour présenter ton dernier single. On en parlera tout à l'heure, au plus près de mes rêves. Voici Au l'humain, Axel Hirsou.
Mes faiblesses font ma force, peu m'importe les voix féroces. J'ai le cœur sur l'humain, le bonheur au creux des miens. Faut fuir en vos semblants des errants. Ma différence va grave, différence qui peut prétendre me connaître, me comprendre. Devant quel juge comparaître sans se rendre? Je n'ai plus peur en mon fort intérieur, ni plaie ni doute. Je sais ma route, ma voix, mes larmes. Ne plus jamais baisser les armes. lever l'humain. Le temps vers le ciel atteindre l'essentiel. Bien pense au bon vivant, en connivence. La tolérance vaincra l'indifférence. Oh, oh, qui peut
Axel Hirsou, Oh l'humain, fantastique, moi j'adore.
Moi j'adore cette émission.
Oui.
Tu sais pourquoi ?
Dis-moi.
Parce qu'on peut passer du coq à l'âne, on peut passer de rock metal à de la variété plus douce, etc. Et j'adore ça.
Alors j'aime bien quand tu parles d'âne et que tu me regardes. Je sais que. Elles vont toutes croire que je suis monté comme un âne.
Non, t'es aussi bête qu'un âne.
Directement. Comment il fait ? Axel, désolé. Hein,
non, mais moi j'ai l'habitude, je vous connais en même temps.
Oui, c'est vrai.
C'est pas comme si c'était la première fois.
Non, c'est sûr. C'est sûr. Et ça nous fait toujours plaisir. Évidemment de te voir, que ce soit en studio, lors d'une émission ou alors lors de nos soirées. C'est vrai qu'on a passé quand même pas mal de chouettes moments ensemble dans des endroits incongrus un peu partout, mm-hmm. avec des super autres chanteurs, avec d'autres super chanteurs et pour des duos fantastiques avec Nuno Rezende entre autres. un duo qui m'a toujours plu, tu fais relativement souvent avec lui, c'est The Show Must Go On.
C'est devenu notre chanson à tous les deux quand on se croise et qu'on a l'occasion d'être sur scène ensemble.
Vraiment, c'est la peur et que le show s'arrête un jour ou...
Non, je crois que c'est juste l'envie de deux potes qui se connaissent depuis très longtemps de partager ensemble un moment très vocal, parce que The Show Must Go On, c'est très vocal quand même, et de s'éclater ensemble sur une scène en duo. Et moi, mon plus gros souhait, ce serait d'être à ses côtés un jour dans une comédie musicale. Donc ça, ce serait vraiment un de mes plus gros souhaits.
Et ben voilà, donc Nuno, on t'enverra
oui,
la...
Je sais.
Voilà. On va remettre ça sur le tapis, hein. Voilà, bon, s'il n'y a pas de comédie musicale, écris-la vite et trouve un rôle pour Axel dedans. Alors, Axel, on vient d'écouter ton morceau,
oui.
Et c'est vrai qu'en off, je l'ai fait remarquer tout à l'heure, et tu es d'accord avec moi aussi sur ce point-là, c'est que je trouve que c'est assez ressemblant à du Grégory Lemarchal au niveau du timbre de voix, au niveau de la voix. Je dis, il y a des similitudes. Je pourrais fermer les yeux et me dire, tiens, c'est Grégory Lemarchal qu'on vient d'écouter.
Et ça me touche que tu me le dises, parce que moi c'est quelqu'un que j'apprécie encore énormément à l'heure actuelle, et c'est quelqu'un que moi j'ai pas envie d'oublier, que j'ai pas envie qu'on oublie.
Je pense pas qu'on
l'oubliera. Et voilà, de toute façon voilà, ça c'est clair et net, on l'oubliera jamais. Et quand on me dit que j'ai cette similitude vocale, mais on me le disait déjà avant, et je faisais des concerts avec ses chansons avant d'avoir les miennes, ça m'a toujours touché et j'ai toujours apprécié ça. Et c'était un artiste avec qui j'aurais adoré partager quelque chose d'artistique.
Bon, il faudra attendre.
Mais voilà, au-delà de tout ça.
Le plus tard possible.
Au-delà de tout ça, c'était. C'est un modèle, au même titre que Balavoine est un modèle dans ce que j'ai envie de faire. Et après, ça reste de la variété française avec le timbre de voix que j'ai et qu'eux avaient. Et voilà, fatalement, on se rapproche toujours de quelqu'un. Mais au-delà de ça, je suis quand même content maintenant de faire mes propres chansons qui sont du Made in Axel, comme j'appelle ça. Et voilà, et c'est surtout la chance d'être entendu et écouté par les gens avec qui je travaille et qui m'écrivent des chansons comme Au l'humain ou comme d'autres.
Au l'humain, justement, qui a été écrit par...
Ça a été écrit par Erwin Lapraille, qui s'occupe de moi maintenant. Et en fait, c'était mon envie à moi de dire aux gens, finalement, qu'on soit différent ou pas, on s'en fout. Le principal, c'est de faire ce qu'on aime et d'oser faire. Il n'y a pas de jugement à émettre sur qui que ce soit. C'était un peu mon coup de gueule d'après Eurovision. et voilà, c'était vraiment revenir aux essentiels des choses et se dire que je suis un être humain avant tout et qu'il y a des choses qui ont pu me blesser dans ce que j'ai pu lire par rapport à certaines critiques et que malgré
on y reviendra
tout à fait. Ouais. Mais voilà, Au l'humain, c'est un credo au droit à la différence.
Alors Dimi oui, est justement en train de faire la success story d'Axel.
Oui, alors j'avais une petite question.
Dis-moi.
Les compos, c'était une démarche que tu voulais depuis toujours ou c'est quelque chose ou c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure?
Alors, c'est quelque chose...
Parce qu'il y a des gens qui, bon, on en a déjà discuté, qui font des covers, c'est super, c'est génial, ils s'éclatent. Et puis il y en a qui disent, bon, maintenant j'aimerais évoluer. Est-ce que c'est quelque
Alors
chose...
moi, je n'ai rien demandé.
Non. Mais
moi, ça, c'est arrivé, en fait...
Ça lui est tombé dessus,
voilà,
en fait.
C'est un peu ça, je suis tombé dedans quand la potion magique. Oui.
C'est Obélix.
Voilà, je suis Obélix. On pourrait, hein, le costume, il me va très bien. Donc. Mais c'est... non, les compos, moi, c'était... Mon envie première, c'était, et je l'ai toujours dit, c'était de commencer par faire une comédie musicale de groupe, avec, voilà, de faire un peu un truc comme ça, une comédie musicale en France, qui part en tournée pendant 2 ans, et j'étais content, voilà, youpi. Et puis est arrivé l'Eurovision, et suite à l'Eurovision, est arrivé les maisons de disques, est arrivé la proposition de faire des compos, de faire des choses personnelles, et quand on t'offre cette chance, tu la prends. Et donc fatalement, c'était pas ce que j'avais envie en premier, mais j'ai changé l'envie, parce que finalement, défendre ses propres chansons, c'est quand même plus valorisant que d'à chaque fois présenter avec des covers dans ce qu'on fait, bien que des covers j'en garde parce que ça fait toujours partie aussi de ce que je suis et de ce que j'ai été et que ça fait toujours plaisir aux gens de réentendre des chansons connues. Mais voilà, moi les compos maintenant, j'ai une équipe qui ne fait que ça. L'album, il y aura 12 titres complètement originaux qui sont à moi, et on m'écoute parler très longuement, on écrit
c'est
des chansons.
C'est pour quand?
C'est pour la rentrée.
C'est pour la rentrée.
C'est pour la rentrée 2016.
Tout en français.
Tout en français. Ce sera un 12 piste, ouais, qui sera disponible.
Non, mais
partout.
Je m'étais dit que vu le succès néerlandophone qu'il avait eu, il allait nous sortir une chanson en flamand aussi.
Non, parce que je ne suis pas assez doué en néerlandais que pour le faire, et j'ai pas envie de le
faire.
Parce
que tu crois qu'Adamo il parle japonais.
Non, mais j'ai pas envie de dénaturer cette langue difficile qu'est le néerlandais, et je ne le sens pas moi de le faire une chanson en néerlandais. Donc voilà, c'est vraiment que chanter en français, finalement c'est assez universel et malgré tout c'est diffusé en Flandre, donc
tout à fait.
Voilà, donc tout à fait. Et puis on est en Belgique, donc qu'on parle français, flamand ou allemand, on s'en fout.
Alors arrive le 16 mars 2014,
aïe aïe aïe,
tu remportes la finale belge de l'Eurosong organisée par la VRT au Sport Palace d'Anvers. Moi je l'ai vu en direct, hein.
Moi aussi.
Alors,
moi aussi.
Toi tu l'as vécu. Nous on l'a vu.
Tu récoltes plus de 50% des votes des téléspectateurs.
Oui.
Tu as 4 fois la note maximum de 12 de la part des 7 pays qui votaient. Donc avec 224 points, tu es choisi pour représenter la Belgique au concours Eurovision de la chanson à Copenhague.
Souvenez-vous, c'était
avec
ça.
Avec cette
chanson.
I'm coming home. I'm broken hearted and I need.
C'est dingue, regarde. Et je le fais pas exprès. Hein.
Mais je le disais aussi tout à l'heure en off.
Comment tu fais pour
il m'a eu avec
des poils
cette
comme
chanson.
Ça, toi. Non, c'est vrai que moi, quand la première fois que je l'ai entendu, j'étais scié. Je me dis non, c'est pas une chanson pour l'Eurovision. C'est trop beau. C'est, je veux dire, c'est, C'était tout bon, c'est vraiment. Je t'ai découvert différemment avec cette chanson. Je pense que la Belgique entière t'a découvert différemment. La Flandre a adoré. Oui. Et d'ailleurs, on va laisser Dimitri continuer là-dessus parce que.
Oui, moi je me rappelle de. Comment s'appelait cette jurée
Elle s'appelait Ruslana.
Ruslana qui avait l'Eurovision. Quand je l'ai vue en pleurs à ce moment-là,
je me suis dit.
Oui.
Quoi, elle était en pleurs carrément.
Elle était en pleurs, elle disait c'est pas possible avec cette chance-là, tu vas cartonner. Bon, lors de ta demi-finale, tu te places 14e sur 16.
Oui.
Moi j'ai pas
qu'est
compris.
Pas ça.
J'ai pas compris de toute façon.
Qui est pas ça.
Et donc tu n'acceptes pas à la finale
voilà.
Qui est remportée par un certain Conchita Wurst.
Oui.
Hein, qui a une très belle voix aussi. On peut lui,
j'aime
on peut lui laisser voilà. Ça.
Non, mais c'est vrai, il est bien, il était bon. Bon, c'est tout à fait différent.
Ah, c'est tout à fait différent.
Puis il y avait tout un concept. Il présentait pas seulement une chanson, il présentait un concept, un personnage.
Voilà, il y avait un message derrière. Voilà. Il y avait plein de choses.
Je veux dire, il y avait du marketing derrière. Voilà. Est-ce que toi, tu avais justement ce marketing?
Moi, j'ai peut-être voulu être trop simple. Et c'est peut-être ce qui a été un défaut dans ma manière d'aborder l'Eurovision. C'est que je voulais rester ce que je suis. C'est-à-dire que je voulais quelque chose de très simple. Et finalement, pendant 3 minutes, la scène de l'Eurovision, elle était devenue toute simple par rapport au feu d'artifice qu'on pouvait avoir avant. Quand on sait qu'avant moi, on avait une chanteuse ukrainienne avec une immense roue dans laquelle il y avait une roue de hamster dans laquelle il y avait un danseur qui faisait un truc.
Cette année-ci, le russe, ça risque d'être assez amusant aussi. Il chante tout nu avec un loup sur la scène.
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Ah, oui.
Mais voilà, donc moi, c'était.
Et peut-être que lui l'embrasse bien.
C'était un concept et voilà, moi, je l'ai vécu en étant ce que je suis. Après, le jour de la demi-finale, j'étais certainement beaucoup trop stressé pour aborder les choses. Mais moi, je ne regrette rien parce que j'ai vécu une expérience de fou. Et malgré tout, 2 ans après, je suis toujours appelé pour faire des concerts pour l'Eurovision. Les organismes de fans de l'Eurovision dans tous les pays me contactent pour aller chanter pour eux. Donc voilà, ça m'a apporté. Ça et puis l'Eurovision, quand on rentre dans la famille Eurovision,
on n'en
sort plus. Donc voilà, on y reste à vie, qu'on aille en finale ou pas. Finalement, c'est jamais l'Eurovision, c'est que 3 jours par an, c'est 3 minutes pour chanter sa chanson et point. Et mais après, ça change une vie radicalement à tous les niveaux. Donc moi, quand je vois toutes les rencontres que j'ai pu faire depuis, ça m'a apporté énormément, évidemment. Et voilà, moi, il y a 3 semaines d'ici, j'étais en Hollande, à Amsterdam, pour chanter pour l'Eurovision.
Donc, voilà, donc tout est bon à prendre, tout bénéf, que ce soit. Starac, Nouvelle Star, The Voice,
tout ce que j'ai pu vivre jusque là est vraiment, moi, me fait grandir.
Bubuyonnaire.
Et me fait grandir aussi.
C'est génial. Dimi, on t'écoute.
Alors après cette aventure, tu signes un contrat avec Universal Music Belgium.
Oui.
Tu sors un single qui s'appelle Bellissimo.
Oui.
Le 21 juillet, c'est une date qui me marque un petit peu.
C'est mon anniversaire. Hein.
Alors il s'agit bien sûr d'une reprise de la chanson italienne Anche se fuori et Inverno de Deborah Jurato. Et pourtant j'ai une femme ici. Donc et c'est une chanson qui était classée numéro 1 en Italie. Alors
oui.
Et puis il y a un breakdown, il y a quelque chose qui va pas.
Oui.
Tu casses le contrat avec Universal.
Ah non, moi je ne casse rien du tout.
C'est eux qui ont cassé le contrat.
C'est eux qui, mais c'est eux d'un commun accord avec moi qui disent voilà, on trouve pas les bonnes choses à faire avec toi et moi je préférerais à la limite redevenir libre. Ce qui s'est passé. Donc d'un commun accord, on a été on a décidé de mettre un terme au contrat. On avait sorti ce Bellissimo qui était radicalement opposé à Mother et je crois que c'est ce qui n'a pas fait le truc. Et puis était sorti en fin d'année un duo avec une candidate de The Voice Kids.
La petite là, c'était
Camille.
Mignon.
C'était mignon comme tout, mais voilà, je crois qu'il y avait pas de. Le problème, c'est quand il n'y a pas de promo derrière, quand les radios ne jouent pas le jeu de diffusion des chansons, on a beau sortir, on a beau avoir fait l'Eurovision pendant l'année, je veux dire, tout le monde
si
ne pense
c'est pour
pas...
aller vendre toi-même tes 10 dans la
voilà.
rue.
Voilà, c'est plus difficile. Donc voilà,
madame, viens pas chercher, moi, au devoir manger.
Donc voilà, d'un commun accord, on a mis un terme au contrat. Et voilà, mais encore une fois, ça a été une expérience. J'ai connu les choses pro des maisons de disques. Et puis, j'ai été récupéré par la suite. C'est un peu le talent volé dans The Voice. Il y en a qui vous laissent partir, il y en a d'autres qui vous récupèrent. Et voilà, moi, ma vie artistique ne s'est pas arrêtée parce que Universal Music me laissait tomber. Donc,
voilà, ça c'était la parenthèse universelle. On y revient très très rapidement. On va vous passer un bon morceau que je voulais vous passer dans la première heure. Et donc cette fois-ci, je vous le passe maintenant. C'est La Bohème, une superbe chanson que tout le monde connaît, mais une version espagnole que tout le monde ne connaît pas de Concha Buica.
de París, alegre lo que hay gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado. Hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor, felicidad. La bohemia, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar, la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, correr y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurarle te vi, te amé. La bohemia, la bohemia, yo junto a ti triunfar podré. Teníamos salud, sonrisa y juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillas y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La La bohemia era mirar y amanecer. La bohemia era soñar con un querer. Hoy regresé a París, crucé su niebla gris y lo encontré cambiado. Las lilas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia que yo viví su luz perdió. La bohemia, la bohemia,
vous êtes à l'écoute de Buzz Radio, c'est Bubu On Air.
On Air, c'est d'enfer.
Et nous sommes toujours en studio avec Axel Hirsou qui est là pour nous présenter son dernier single que nous allons retrouver juste après, évidemment, la suite de la chronique de Dimi.
Alors, après l'épisode Universal Music, tu signes avec un nouveau label ?
Avec un label belge, avec un label indépendant.
Guns Records, oui.
En fait, j'avais rencontré ces gens bien avant, et c'était à l'acte 3 un soir où je chantais de Show Must Go On, on en parlait tout à l'heure. Et donc, le producteur Michel Bellens, donc responsable de ce label, avait été très impressionné par ma version de Show Must Go On et voulait déjà travailler avec moi. Puis, ça s'est pas fait parce qu'est arrivé l'Eurovision et la suite. Et quand je me suis retrouvé libre sur le marché, on va dire. il m'a recontacté tout de suite en me disant voilà, nous on veut toujours travailler avec toi. Il faut savoir que c'est un label qui normalement est spécialisé dans la dance, la techno, le Palladium entre autres, tout ce qui est Palladium, c'est eux. À l'époque Fortuna, c'était eux aussi. Donc c'est des gens qui s'y connaissent bien dans le milieu. Et donc je suis un peu un défi pour eux puisqu'ils n'ont jamais eu de chanteur de variété ou de chanteur francophone. Et voilà, et donc du coup ils m'ont donné cette chance d'avoir de nouveau la possibilité de faire des singles et un album en préparation actuellement, et on travaille ensemble avec des équipes d'auteurs, compositeurs, et ça s'est greffé tout d'un coup, et puis voilà comment je me suis retrouvé avec toutes mes chansons à l'heure d'aujourd'hui. Et,
donc
voilà.
En 2015 tu sors le single Aux Lumins, oui. Début d'une nouvelle collaboration donc, oui. En décembre de la même année, le titre Après l'hiver,
tout à fait,
écrit par Isa Loris, oui. Sabine Cardinal et Elias,
oui, Alors Elias, c'est un chanteur français qui m'a contacté via Facebook, c'est la magie du net, les rencontres actuelles via le net, qui m'avait aussi repéré au moment de l'Eurovision et qui voulait travailler, qui aime ou il aime pas les grandes voix, et dans mon cas il aimait beaucoup et donc voulait travailler sur des chansons avec moi. Et donc toute l'équipe avec Isa Loris et Sabine Cardinal s'est greffée. Isa Loris, elle a écrit entre autres des titres pour Hélène Ségara et Julie Zenati, Sabine Cardinal pour des chanteurs belges. Et donc voilà, et donc cette équipe de Elias, Isa et Sabine donc m'ont proposé le Après l'hiver qui était une suite logique à Au l'humain voilà, et ont écrit le dernier en date, le Au plus près de mes rêves aussi, et m'ont écrit d'autres chansons un peu plus intimes sur l'album à venir. Voilà.
Donc qu'écoutais-tu quand tu étais jeune,
quand j'étais enfant?
Ouais, quand t'étais enfant.
Mon Dieu, j'écoutais Dorothée, moi, monsieur.
Eh bien, je vais t'avouer que moi aussi. Avec Corbier.
Avec son long nez, là. C'était
moi, j'écoutais Dorothée, j'écoutais quoi? Mais en fait, mais non, même pas, parce que c'était déjà plus ma génération, ça. C'était la génération d'avant moi. Donc, moi, c'était Dorothée, et puis je m'intéressais déjà un peu beaucoup à l'Eurovision. Parce que c'était un truc qu'on regardait en famille tous les ans. Puis est arrivé Céline Dion, ils sont arrivés Lara Fabian, sont arrivés tous les chanteurs un peu à voix des années 90.
Les chanteuses surtout.
Les chanteuses aussi. Et puis, moi j'aime bien les chanteuses, monsieur. Ouais.
Je n'ai rien contre les chanteuses.
Ah, voilà. Donc moi j'ai toujours écouté un peu de tout. Quand j'étais petit, j'avais tendance à ennuyer les gens avec mon manche-disque. Parce qu'à l'époque, il y avait des manches-disques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un manche-disque, c'était une grande boîte dans laquelle on mettait le vinyle. Le 45 tours, parce que les 33 ne rentraient pas.
C'était pas plus grand que votre cartable d'école.
Voilà, tout à fait.
C'était la grandeur d'une boîte, une grosse boîte à tartines.
Et c'était assez drôle. Et j'écoutais Chaud Cacao, d'Annie Cordy aussi.
Tu chantais?
Je chantais, oui. Il y a des anecdotes de moi qui chante étant petit, en visite au Palais Royal de Bruxelles. D'accord. Où je me retrouve avec mes parents à chanter J'aime la vie de Sandra Kim et à faire rire la garde royale parce que je chante J'aime la vie, j'aime la vie, voilà.
Sympa.
Donc c'est voilà une petite.
C'est vrai qu'à ce moment-là, tu as 4 ans, je crois. 4,
j'ai 4 ans. Ouais. J'ai 4 ans, tout à fait.
Dis donc.
C'est parce que nous, ça nous rappelle une belle époque aussi. C'est pour ça.
Oui. Vous aviez déjà 22 ans, vous deux.
Non, pas encore. Juste 20.
Qu'il est méchant, hier j'ai rencontré des auditeurs internautes qui nous écoutent sur internet. Oui. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur le
www.buzzradio.be sur le player.
Voilà, et évidemment sur la FM. Et les personnes qui nous écoutent sur notre player internet sont souvent des personnes de Bruxelles, vu que la bande est de la région de bruxelloise. Qui m'ont dit, mais est-ce qu'on peut poser des questions aussi à Axel? On a vu qu'il serait invité dans... Je dis, oui, bien sûr.
Mais avec grand plaisir.
Voilà, et donc voici la première question qu'on te pose, Axel. Donc on va essayer de retrouver...
Alors je suis ici en compagnie d'une charmante demoiselle, une internaute, qui nous pose une question. Et cette question, elle est pour Axel.
Salut Axel, je voulais savoir ce que tu pensais de la libération des baleines en Afrique du Sud.
Axel, tu t'y attendais pas.
Qu'on les libère et qu'on les laisse tranquilles, surtout.
Qu'on les laisse tranquilles.
Et qu'on arrête de chasser cet animal noble qu'est la baleine.
Voilà.
Dont je suis le digne représentant.
J'espère qu'elle est contente. Elle nous en a posé une deuxième. Question subsidiaire.
La question subsidiaire.
Salut Axel, je voulais savoir ce que tu pensais de la reproduction des moustiques en Corée du Nord.
Écoute, je pense que cette question, il aurait fallu la poser à Nuno Rezende, qui est en Corée pour le moment. Mais je ne sais pas s'il est en Corée du Nord, je crois qu'il est dans le Sud, lui.
Ouais, vaut mieux.
Je pense que c'est mieux pour lui. Écoute, je pense que je vais prendre contact avec cette demoiselle et lui répondre de manière privée.
Par contre, elle est une question plus correcte, non pas par rapport à toi, mais par rapport à un de tes collègues, on va dire.
Oui.
Alors, une troisième et dernière petite question pour Axel.
Salut Axel, je voulais savoir ce que tu pensais de la carrière de Claude Barzotti en Belgique.
Voilà.
Claude Barzotti, c'est un monsieur très respectable, je pense, en Belgique, qui a fait des choses très respectables dans les années 80 et qui a encore la chance de faire des tournées, je pense, avec d'autres artistes, si j'ai tout compris.
Tu l'as déjà rencontré ?
Je ne l'ai jamais rencontré, mais moi, je pars du principe que tout artiste a le droit au respect à partir du moment où il a eu des gros succès et autres, et même sans succès, on a droit au respect. Et des gens comme Claude Barzotti, c'est des gens qui ont marqué la musique et qui ont marqué le paysage belge, j'ai envie de dire. de dire. Et que bah, s'ils n'avaient pas été là, je pense que ça aurait été autre chose. Et c'est aussi la preuve que peu importe d'où on vient, on peut y arriver.
Tu as chanté du Barzotti ?
Jamais.
Un peu trop cassé comme voix.
C'est un peu trop cassé, mais j'ai entendu parce que, bah, comme tout le monde, j'écoutais la radio quand j'étais petit. Et puis, il passait sur Disque On Aime que je regardais à la télévision. Et voilà, donc c'est, ça reste quelqu'un de, bah, oui, de mon enfance, j'ai envie de dire. Mais que je ne suis pas plus fan que ça. J'ai énormément de respect pour le monsieur. Mais voilà, c'est pas mon truc, on va dire.
Nous on emballait sur.
Ah, vous vous emballez. Mais c'est ça, c'est déjà plus soirées, ma génération. Hein. En fait.
C'était les années 80. D'ailleurs, nous avons préparé une émission donc spéciale années 80 où on va vous passer évidemment les grosses saucisses de l'époque,
mais donc, aussi des petites saucisses, les catastrophes, hein,
donc les catastrophes, les trucs qui ont été vraiment abominables, mais qu'on a quand même écouté et sur lesquels on a dansé. On va vous parler aussi de tout ce qui était jeu de l'époque aussi, ouais, enfin les événements, les inventions des années 80, enfin tout ce qui nous a amené à avoir tout ce qu'on a aujourd'hui, car tout a été inventé pendant ces années là-bas. Donc Axel n'est pas ici par hasard, il est ici parce qu'il vient de sortir un nouveau single qui s'appelle Au plus près de mes rêves, qui pour moi est quand même un des meilleurs singles de ta carrière de chanteur.
Ça me fait plaisir. Alors, ça veut dire qu'on évolue.
Voilà, tout à fait. Je l'ai encore écouté ce matin, je l'ai écouté hier et
mais tu vas pouvoir me le chanter.
Ça me plaît. Ah, je ne connais pas encore par cœur, mais je peux le chanter. Je l'ai chanté tout à l'heure.
Oui.
Mais enfin, je chantonne. Hein, je fais du yaourt. Je suis très spécialisé.
En yaourt.
Ouais, tout à fait. Bon, comme beaucoup. Hein.
Comme beaucoup.
Allez, c'est parti. Axel Hirsou, Au plus près de mes rêves. Et on le retrouve juste après ceci.
À chaque pas, on peut changer l'histoire. Un nuage noir loin du ciel bleu s'évade. Je veux trouver là où que j'aille mon paradis, la vie que j'ai choisie. Jardin secret, dans nos sommeils, des rêves qu'on a défaits. Je veux trouver là où que j'aille mon paradis, ce qui
découverte dans On Air.
Ah voilà, ben la découverte, c'est lui, c'est Axel Hirsou avec son dernier single. J'ai bien aimé.
Mais moi, j'ai bien aimé aussi.
C'est
et puis,
rythmé,
vous êtes bien
différent.
Sur Buzz Radio, c'est autre chose. Et comme le disait Axel tout à l'heure, on a le droit d'être différent. Et nous, on a le droit de passer des choses très différentes.
Tout à fait. Ça me fait plaisir, moi, de toute façon, de faire plaisir à mes amis. Et si un jour, il y en a un qui vient et qui me dit « J'ai sorti une version spéciale de la pêche aux moules ». Et ben je passerai la pêche aux moules rien que pour lui faire plaisir, voilà, tout simplement. Non mais sincèrement je te l'ai dit, je veux pas te lancer des fleurs ou quoi que ce soit, j'aime l'évolution qui se passe, je vais dire au niveau musical, au niveau du chant, bah ça, je veux dire on y est toujours, on est toujours au même endroit. Je pense que je sais pas s'il y aura encore une évolution.
Mais il y a toujours moyen d'évoluer. Après, c'est ce que je te disais en off. Celle-ci, je la voulais un peu moins vocale parce que bah, jusque-là, j'ai fait que des balades vocales finalement. Que ce soit Mother qu'on entend en fond, ouais. Que ce soit Oh l'humain, que ce soit Après l'hiver, il y avait toujours un moment où ma voix partait en très vocale. Et moi, j'avais envie d'un peu de choses différentes et d'un peu de pop rock, d'un peu de guitare. Moi, je suis fan de groupes comme Keen ou comme des groupes comme ça aussi. Donc, j'avais envie de cette influence-là. Et c'est ce qui va faire que mon album va être une grosse mosaïque musicale. Parce qu'il y aura de tout, vraiment de tout. Et c'est surtout la liberté artistique, c'est ça aussi. C'est de pouvoir faire un peu tout ce qu'on veut. Et surtout quand on nous laisse faire. Et moi, j'aime bien toucher un peu à tout. Et la prochaine qui sort en juin, elle sera encore un peu différente. Et je pense que tu vas encore être assez surpris aussi au niveau du style, parce que ce sera pas vocal et ce sera un peu différent. Et puis on reviendra pour la promo réelle de la sortie de l'album sur des vraiment chansons plus percutantes,
plus
à la
péchu.
Mother, plus voilà, j'ai une chanson sur mon album qui est un peu une réponse à Mother, mais sans l'être, mais qui est dans le même style.
Ah, ok. Donc,
il y a des choses à venir.
Voilà, il y a plein de bonnes choses. L'album, il y aura une histoire sur cet album.
Ben, ce sera à travers mes 12 chansons.
À travers tes 12 chansons, donc on va te retrouver.
Ce sera un premier album. Donc c'est vraiment, c'est vraiment la mise à nu du chanteur pour un premier. Je ne vais pas dire la mise à mort tout de suite.
Donc tu as participé à l'écriture de tous les textes.
J'ai pas participé directement, mais on m'écoute. Donc moi, je n'écris pas. Moi, je fais qu'interpréter. Mais toutes les chansons que j'ai sur mon album sont des chansons où j'ai raconté une histoire, où j'ai parlé de mon vécu, où j'ai parlé de moi, où j'ai une chanson ouvertement sur l'amour entre deux hommes, parce que
raconte.
Ça fait partie, mais ça fait partie aussi de mon histoire. Et jusque là, les chansons qui ont été faites sur l'amour homosexuel ont été faites par souvent des hétéros. Et moi, en tant que gay qui s'assume et qui est marié à un homme, j'avais envie d'une chanson qui parle de ça. Et donc, elle sera sur mon album. Ça s'appelle Il ne ressemble à personne. Et ce sera à découvrir sur l'album. Et uniquement parce que c'est pas du tout un titre pour être un single.
C'est beau.
C'est très touchant. C'est très.
Il l'a déjà entendu.
Il l'a déjà entendu. Il est très content. Il en est très content. Okay. Il y aura ça. Il y a des chansons. Il y a une chanson un peu plus up tempo qui va arriver pour le mois de juin, mais qui elle sera un single. Il y a une chanson qui s'appelle Merci, où je dis simplement merci à tout le monde, et qui sera la dernière piste de l'album, donc ça clôturera bien. Et qui là est très très vocal, et c'est Mathieu Gonnet qui fait le piano de cette chanson.
Ah ouais.
Donc voilà. Et puis il y a d'autres chansons, parce que je suis encore en studio à la fin de ce mois-ci, pour finir, pour le peaufiner, pour vraiment prendre le temps de faire les bonnes choses. Et puis il y a tout un choix.
Ouais.
Et je vais certainement devoir me séparer de certaines chansons maintenant, parce que les 12 pistes, il faut vraiment être sûr et certain de ce qu'on fait. Et j'en ai enregistré plus que 12 actuellement. Donc,
c'est pas grave,
il y aura un deuxième album.
Voilà, tu en as pour la suite. Voilà. Et puis alors, il y a certaines chansons que tu sortiras qu'en concert aussi.
Tout à fait, il y a des chansons qui seront en concert. Et il y a deux covers sur cet album. Il y aura une de Balavoine et il y a une de Dalida.
Mais ça, c'est une bonne chose d'ailleurs. Il est en train de m'ouvrir une porte là.
Tu es fan de Balavoine, en fait.
Moi, je suis fan, mais... Enfin, j'aime pas te dire que je suis fan, parce que moi je suis pas fan moi j'aime.
Oui, mais
tout
quand
monde,
je dis fan, c'est du côté positif, c'est pas.
Je suis fan.
Non, il est pas groupie.
Je suis très respectueux des artistes, et c'est quelqu'un que j'ai la chance de faire un concert tous les ans, une fois par an, jusque maintenant. L'acte 3 de nouveau avec ses chansons.
D'ailleurs, il y a peu.
C'était début mars.
Ouais.
Donc,
il y a deux mois.
C'était la folie.
Juste. Ouais.
Et voilà, mais après, je sais pas si je continuerai encore longtemps à faire ce concert de cover, bien que je respecte. respecte les chansons de Balavoine et l'artiste qu'il est. Mais
pas,
à un moment donné, je passe à mes chansons, tu vois.
Voilà, oui, mais pourquoi pas? Parce que quand on voit des chanteurs qui, tous les ans, se retrouvent tous ensemble pour une belle cause, comme la cause que Coluche a lancée il y a quelques années, ce ne sont que des covers pendant tout le concert.
J'y étais au Resto du Cœur le 30 avril.
Voilà.
J'y étais, c'était la semaine
dernière. On avait rendez-vous ensemble et malheureusement, tu avais ce jour-là travaillé avec Virginie et Jérôme et ta clique. Donc tout le monde était invité, tout le monde me dit, mais non, on a un concert avec Axel. J'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai rendez-vous avec Axel. Ah bah alors, lui il sera chez toi et nous on sera là-bas en train de l'attendre. Et puis pour finir, tu m'as dit, bah non, on se retrouvera
tout
plus tard. Et ça s'est bien passé.
Très bien. Ouais. Très très chouette.
C'est vraiment chouette de se retrouver comme ça avec d'autres artistes, d'autres musiciens, chanteurs, et pouvoir faire une belle grande soirée cover.
C'est le principe du chanteur, c'est de pouvoir partager.
Malheureusement, quand tu es seul lors d'un concert, bah, par exemple le jour où tu vas lancer ton concert avec toutes tes compos, tu seras seul ou alors tu auras des guests à chaque fois?
Écoute, moi j'aime bien d'avoir des guests, donc il y aura certainement toujours des guests et des amis qui seront là pour
faire ça. Je t'ai vu chanter avec Virginie, j'aime beaucoup.
Il y avait Noémie aussi.
Il y a eu
Nuno. Ouais. Voilà. Donc il y a toujours la porte est toujours.
Oui, j'avais dit tout à l'heure Virginie, non, c'est Noémie que j'ai eu au téléphone qui devait venir, donc qui a fait The Voice et qui m'a dit bah non, je sais pas venir parce qu'on a.
Ah oui, tout à fait, voilà. Le concert.
Le concert.
Ouais, ouais.
Voilà. Bah, c'est bien d'être entouré comme ça par toutes ces personnes. Bon, on parlait cover, tu vas pas nous laisser sur le carreau et je suis sûr que tu vas nous faire un petit acoustique ici.
Allez.
En studio.
Ouais. Allez, faisons-nous plaisir.
On va faire ça, mais pas tout de suite. Là, j'ai envie de faire plaisir à Dimi parce qu'il voulait l'écouter la semaine passée. Malheureusement, j'en ai passé un autre. Voici un King
Crimson. I talk to the wind.
Voilà, tout spécialement pour mon ami Dimi. Vous êtes à l'écoute de Bubu On Air sur Buzz Radio. Oh. c'était Kim Crimson sur Bubu On Air, Buzz Radio, 97.8, 94.3. Et nous sommes en compagnie toujours d'Axel Hirsou, ici dans le studio. La raison pour laquelle je pousse un cri ici, c'est qu'ils veulent nous faire un super bon petit acoustique sur un super bon petit morceau de Daniel Balavoine, La vie ne m'apprend rien. Alors la première fois que je l'ai entendu chanter cette chanson, bah, c'était justement à l'acte 3, il y a 2 ans je pense. Il y avait d'ailleurs même avec toi Nico, cette fois là sur le...
On fait ça tous les ans depuis 3 ans.
Donc il y a un petit temps, et je me suis dit, mais misère, comment il fait lui, où il va chercher sa voix? Et bon, bah, vous allez...
Dans sa poche.
Ouais, vous allez pouvoir découvrir ça tous ensemble, ici, en direct, sur Buzz Radio. Voici Monsieur Axel Hirsou, avec une reprise de Daniel Balavoine, La vie ne m'apprend rien.
Acoustic Session, dans On Air.
Qui ose dire qu'il peut m'apprendre les sentiments, ou me montrer ce qu'il faut faire pour être grand? Qui peut changer ce que je porte dans mon sang? Qui a le droit de m'interdire d'être vivant? De quel côté se trouvent les bons ou les méchants? Leurs évangiles ont fait de moi un non-croyant. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. À ceux qui croient que mon argent endort ma tête, je dis qu'il ne suffit pas d'être beau pour être honnête. Ils croient peut-être que la liberté s'achète. Que reste-t-il des idéaux sous la mitraille? Quand nos prêcheurs sont à l'abri de la bataille, la vie des morts n'est plus sauvée par des médailles. La vie ne m'apprend rien. Je voulais juste un peu parler, choisir un train. La vie ne m'apprend rien. J'aimerais tellement m'accrocher, prendre un chemin, prendre un chemin. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. Les lois ne font plus les hommes, mais quelques hommes font la loi. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je reste planté là. La vie ne m'apprend rien.
Yeah. Acoustic Session dans On Air.
Merci pour ce cadeau.
Avec plaisir.
C'est vraiment, et en plus, il n'y avait rien de préparé.
Rien du tout.
Pour une fois, il n'y avait vraiment rien de préparé. Bon, c'est pas comme si tu ne connaissais pas la chanson non plus. Mais évidemment, la bande-son ici est tout à fait différente de celle que, sur laquelle tu joues d'habitude.
Tout à fait.
Ici, bon, bah voilà, je t'ai fait un cadeau surprise, un cadeau empoisonné.
Mais avec grand plaisir.
Tu as bien relevé le défi, c'est géant. Merci. C'était Axel Hirsou en direct acoustique ici dans les studios de Buzz Radio. Merci. On va se retrouver très très rapidement pour la troisième heure. Donc vous avez passé une première heure en compagnie de Dimi et Bubu pour une bonne avec surtout une bonne chronique, rappelle-nous
Chris Dane.
Voilà, si vous avez loupé cette chronique, donc un super anversois bruxellois chanteur compositeur, enfin vraiment le truc
vraiment phénoménal. C'est son troisième album.
Tout à fait. Donc,
Rose of Jericho.
Si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller réécouter le podcast sur buzzradio.be/blog. Et là, vous recherchez le podcast du jour. Et donc, il y a eu cette super chronique. Dans la deuxième partie, Axel Hirsou. Et dans la troisième partie, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Axel Hirsou de nouveau. Non, ça nous fait vraiment plaisir. C'est vraiment très, très chouette. Surtout, j'aime bien avoir des talents ici. J'aime bien avoir des chanteurs. J'aime bien avoir des musiciens. Mais j'aime bien avoir des amis. Et alors quand ils sont tous en même temps, c'est génial.
Voilà. C'est Noël.
C'était qui ça encore? Oui, c'est Enya. C'est Noël. Bon, qu'est-ce que tu veux écouter pour comme morceau pour la deuxième heure? Tiens,
qui me ferait plaisir? Du Adèle, tiens.
Du Adèle.
Oui.
Très bien. On va s'écouter un petit Adèle. Après le top horaire, un petit Adèle pour tout le monde. On se retrouve tout de suite. À très très vite.